Nous allons commencer un parcours dans le livre des rois. 1 et 2 rois, c'est un seul livre dans les écritures juives. Ce livre est écrit après que le peuple a été déporté, exilé en Babylone, après que la ville et le temple de Jérusalem ont été détruits, après que le royaume et les rois ont fait un crash terrible. Donc ce livre est en quelque sorte la boîte noire récupérée du crash. Les boîtes noires servent à cela. Qu'est-ce qui a causé le crash? Est-ce que le problème est-il survenu au décollage? Est-ce que le problème était en vol, à l'atterrissage? Est-ce que le problème c'était à cause de la météo? Est-ce que c'était un défaut de fabrication, d'entretien? Ou comme le plus souvent est révélé, c'était une erreur de pilotage, peut-être. Une boîte noire, qui sont en fait orange, mais permet de comprendre le crash, mais aussi pour en éviter d'autres. Et c'est ça le but de ce livre. Ce matin, nous allons regarder le début. Donc, j'appelle ça la saga de Salomon. Le livre des rois commence avec le règne de Salomon. Ce matin, son intronisation, c'est le décollage du royaume. Et nous allons voir que le début s'est plutôt bien passé. Malgré des turbulences, le pilotage a bien fonctionné. La stabilité du royaume est revenue rapidement après ces turbulences. Et si le peuple de Dieu reste dans cette lignée-là, ils vont aller loin. La stabilité de leur vie, de leur royaume sera assurée. Donc je vous invite avec moi à faire la lecture. Si vous avez un portable, une Bible, ça vous sera très utile ce matin parce que la lecture sera assez longue. Il y aura beaucoup de personnages à découvrir, de personnages dans ce royaume. Voilà, c'est une longue lecture, mais comme nous avons vu récemment, la Bible n'est pas un livre ennuyeux. Je ne pense pas que vous allez vous ennuyer dans cette lecture. Donc moi, on va lire les extraits du chapitre 1 et du chapitre 2. Pas tout, mais une bonne partie. Donc, 1 Roi, chapitre 1, tout d'abord, versets 1 à 14. 1 Roi, chapitre 1. Le roi David était vieux, avancé en âge, on le couvrait de vêtements, il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent « Que l'on cherche pour mon seigneur le roi une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans ton sein, mon seigneur le roi se réchauffera. » On chercha dans tout le territoire d'Israël une fille jeune et belle, et on trouva Abishag, la Sunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était fort belle. Elle soigna le roi et le servit, mais le roi ne la connut point. Adonija, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire « C'est moi qui serai roi !» Il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Adonija était en outre très beau de figure. Il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, fils de Tseruja, et avec le sacrificateur Abiathar, et ils embrasèrent son parti. Mais le sacrificateur Tsadok, Benaja, fils de Jehojada, Nathan le prophète, Shimaï, Rei et les vaillants hommes de David ne furent point avec Adonija. Adonija tua des brebis, des bœufs et des veaux gras près de la pierre de Zoélet, qui est à côté d'En-Roguel. Il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. Mais il n'invita point Nathan le prophète, ni Benaja, ni les vaillants hommes, ni Salomon son frère. Alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, « N'as-tu pas appris qu'Adonija, fils de Haggith, est devenu roi, sans que notre seigneur David le sache? Viens donc maintenant, je te donnerai un conseil, afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Va. » Entre chez le roi David et dis-lui, ô roi mon seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant, Salomon ton fils régnera après moi et s'assiera sur mon trône? Pourquoi donc Adonija règne-t-il? Et voici, pendant que tu parleras là avec le roi, j'entrerai moi-même avec toi et je compléterai tes paroles. C'est ce qu'ils font. Nathan le prophète et Bathsheba la mère, ils vont voir David, ils se mettent en action et ils lancent l'intronisation de Salomon. Et je reprends la lecture en verset 38. Alors le sacrificateur Tsadok descendait avec Nathan le prophète, Benaja fils de Jehojada, les Kérétiens, les Pélitiens. Ils firent monter Salomon sur la mule du roi David et ils le menèrent à Guion. Le sacrificateur Tsadok prit la corne d'huile dans la tente, il loignit Salomon, on sonna de la trompette et tout le peuple dit « Vive le roi Salomon !» Tout le peuple monta après lui et le peuple jouait de la flûte et se livrait à une grande joie et la terre s'ébranlait par leurs cris. Ce bruit fut entendu d'Adonijah et tous les conviés qui étaient avec lui au moment où il finissait de manger. Joab, entendant le son de la trompette, dit « Pourquoi ce bruit de la ville en tumulte ?» Il parlait encore lorsque Jonathan, fils du sacrificateur Abiathar, arriva. Et Adonijah dit « Approche, car tu es un vaillant homme et tu apportes de bonnes nouvelles. » « Oui, répondit Jonathan à Adonijah, notre seigneur le roi David a fait Salomon roi. Il a envoyé avec lui le sacrificateur Tsadok, Nathan le prophète, Benaja fils de Jehojada, les Kérétiens et les Pélitiens, et ils l'ont fait monter sur la mule du roi. Le sacrificateur Tsadok et Nathan le prophète l'ont oint pour roi à Guion. De là, ils sont remontés en se livrant à la joie, et la ville a été émue. C'est là le bruit que vous avez entendu. Salomon s'est même assis sur le trône royal. » Et les serviteurs du roi sont venus pour bénir notre Seigneur le roi David en disant que ton Dieu rende le nom de Salomon plus célèbre que ton nom et qu'il élève ton trône au-dessus de ton trône. Et le roi s'est prosterné sur son lit. Voici encore ce qu'a dit le roi. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a donné aujourd'hui un successeur sur mon trône et qui m'a permis de le voir. Tous les conviés d'Adonijah furent saisis d'épouvante. Ils se levèrent et s'en allèrent chacun de son côté. Adonijah eut peur de Salomon. Il se leva aussi, s'en alla et saisit les cornes de l'autel. On vient dire à Salomon, voici Adonijah a peur du roi Salomon. Il a saisi les cornes de l'autel en disant que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne fera point mourir son serviteur par l'épée. Salomon se dit, s'il se montre un honnête homme, il ne tombera pas à terre un de ses cheveux. Mais s'il se montre en lui de la méchanceté, il mourra. Et le roi Salomon envoya des gens qui le firent descendre de l'autel. Il vint se prosterner devant le roi Salomon et Salomon lui dit, va dans ta maison. Nous allons encore lire les dernières paroles de David dit ici, début du chapitre 2. Chapitre 2, David approchait du moment de sa mort, il donna ses ordres à Salomon son fils en disant, « Je m'en vais par le chemin de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme, observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu tourneras, et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi, si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Tseruja, et ce qu'il a fait à deux chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner, à Amasa, fils de Jeter. Il les a tués, il a versé pendant la paix le sang de la guerre, il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait aux reins et sur les chaussures qu'il avait aux pieds. Tu agiras selon ta sagesse et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Tu traiteras avec bienveillance les fils de Barzaï, le Galadite, et ils seront de ceux qui se nourrissent à ta table, car ils ont agi de la même manière à mon égard en venant au-devant de moi lorsque je fuyais Absalom, ton frère. Voici, tu as près de toi Shimei, fils de Guéra, benjamite de Bakurim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Manaïm, mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain, et je lui jurai par l'Éternel en disant, « Je ne te ferai point mourir par l'épée. Maintenant, tu ne le laisseras pas impuni, car tu es un homme sage, et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre ensanglanté ses cheveux blancs dans le séjour des morts. » David se coucha avec ses pères et fut enterré dans la ville de David. Le temps que David régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans et à Jérusalem, il régna 33 ans. Salomon s'assit sur le trône de David, son père, et son règne fut très affermi. Voilà le début, le décollage du royaume, le début de la saga de Salomon. Le livre des rois commence, comme vous voyez, avec une crise politique. Une crise de leadership qui va succéder à David. Le royaume sera-t-il déstabilisé? Mais, comme nous venons de voir, ça termine bien. En tout cas, dans les deux premiers chapitres, Dieu montre qu'il sait délivrer son roi et affermir son royaume face à tous ses rivaux. Ce royaume affermi, c'est un peu des mots-clés, c'est le bilan-clé des premiers chapitres. Il revient plusieurs fois, c'était le dernier mot de notre lecture, verset 12, son règne fut très affermi Et ce mot est répété plusieurs fois en chapitre 2, et c'est ainsi que termine carrément le chapitre 2. La royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon. Donc, encore aujourd'hui, c'est ce que nous voulons vivre, des vies affirmées, stables. C'est pas moi qui vous apprendra ça. En aéronautique, la stabilité d'un avion, c'est sa capacité à se redresser, de devenir stable après les turbulences, c'est ce qu'on recherche. Et c'est ce que vont vivre ce royaume. Encore aujourd'hui, le royaume de Dieu, le roi de Dieu, Jésus, qui est le fils de David par excellence, lui aussi ne manque pas de rivaux qui tentent de le détrôner, d'usurper son pouvoir. Mais Dieu, c'est ce que nous voulons croire et vivre encore ce matin, Dieu saura établir son royaume et affirmer, stabiliser toute personne qui s'y rallie. Mais pour cela, il faut comprendre ce matin un peu le déroulé de cette histoire. Nous allons voir un peu le vide du pouvoir, ensuite la voix du prophète et enfin le verdict du prince. Commençons avec le vide du pouvoir qui entame cette crise et qui menace la stabilité de ce royaume que l'on voudrait voir affirmé, tout comme nos propres vies. Les premiers versets décrivent le déclin du roi David. On apprend dans ce chapitre qu'il devient très vieux, un âge très avancé, et même on donne quelques détails pour montrer quelque part un roi qui manque de puissance. Il n'arrive pas à se réchauffer. Malgré les habits, malgré toutes les couettes qu'on le met sur lui, il a froid. Donc on voit physiquement, il est très décliné. Alors on propose de mettre de la chaleur humaine dans son lit avec cette belle fille Abishag. Mais on précise qu'ils n'ont pas de relations sexuelles et ils n'ont pas connu de la manière que la Bible décrit cela. Donc, c'est vraiment le portrait d'un roi impuissant physiquement et dans sa virilité et tout. Ce qui va créer, comme vous le savez, un vide du pouvoir. On dit souvent que la nature a horreur du vide, mais en politique et aussi en spiritualité, c'est particulièrement vrai. Les gens, comme disait Nicolas pour démarrer notre célébration ce matin, les gens cherchent une direction forte et ils veulent suivre un gagnant, ils veulent une vision claire. Et l'être humain est comme ça, nous sommes comme ça. Et quand il manque de leadership, quand il manque d'autorité, ça peut créer une crise, ça peut créer des turbulences, il y a une vide du pouvoir. Alors, on découvre que ce personnage Adonija, lui, il cherche à remplir ce vide du pouvoir. Il est le quatrième fils de David. Deux de ses frères aînés ont déjà été tués. La famille de David, c'est une famille un peu dysfonctionnelle, on va dire quand même. Mais ses deux frères aînés ont déjà été tués et le troisième, on n'en parle jamais. Peut-être lui aussi est déjà mort. Donc, il se voit prochain en lignée. Mais regardez ses qualités en verset 5. Est-ce qu'il ferait un bon roi? Il se laisse emporter par l'orgueil et il se procure un char et 50 hommes qui courent devant lui. Son père ne lui avait jamais de sa vie fait un reproche. Donc on découvre, quand on regarde le portrait que nous dresse le narrateur, il est orgueilleux, il cherche sa propre gloire, il va payer des gens pour courir devant lui. Il est gâté, c'est quelqu'un qui n'a jamais été corrigé par son père, donc c'est un enfant gâté. Et accessoirement, il est très beau, dit le verset 6. Adonija était en outre très beau de figure, il était né après Absalom. Donc le narrateur déjà nous rappelle un peu Absalom, qui avait lancé une rébellion contre son père David, mais il avait un peu les mêmes traits, il était beau, dynamique. Donc voilà Adonija, est-ce que lui, il ferait un bon roi? Est-ce que c'est lui que nous voulons suivre? Mais même si les apparences sont belles, même s'il est très beau, ses autres qualités ne sont pas rassurantes. Est-ce qu'un royaume bâti sur ces qualités-là sera affirmé et stable? Est-ce que nos vies bâties sur ces qualités-là, l'orgueil, l'égoïsme, manque de cadre, discipline, est-ce que c'est ça qui va produire un royaume affirmé et stable? Est-ce que c'est la manière dont vous voulez éduquer vos enfants? A priori, non. Mais il arrive à convaincre un certain nombre de le suivre, de rallier à son parti. notamment Joab, verset 7, Joab, c'était le commandement des armées de David, quelqu'un qui avait vécu tout le parcours avec David, un homme vaillant à la guerre, c'est sûr. Et donc, le commandant des armées rallie la partie d'Adonijah et aussi Abiathar, un des sacrificateurs. Verset 7 dit « Joab et Abiathar, ils embrasèrent son parti. » Eux, ces deux hommes, qui sont aussi leaders du pays, ils voient ce vide du pouvoir et ils pensent parier sur un gagnant dans la personne d'Adonijah. Et c'est ça qui nous amène à une réflexion sur ces vides du pouvoir. Un vide du pouvoir, comme un vide d'affection, un vide de direction, un manque d'amour. Ce texte nous invite peut-être à se méfier du premier venu, à se méfier de soi-même. Quand il y a des crises dans la vie, ou qu'il manque parfois une direction, et à qui allons-nous rallier ? Qui allons-nous suivre? Un jeune qui quitte le foyer parental pour faire ses études, peut-être ça crée un vide dans sa vie à un moment. Qui est-ce qui va suivre? Une société qui abandonne ses racines chrétiennes, ça laisse un vide éthique parfois. Qui allons-nous suivre? Une mauvaise expérience avec une autorité absente ou abusive, familiale ou romantique, eh bien, cela aussi peut créer un vide. Et la question se pose, il faut beaucoup, par qui est-ce que je vais me laisser convaincre? C'est vrai qu'Adonijah montre un leadership plus viril que le vieux David, mais est-ce la solution? Le verset 5 devrait déjà nous avertir pas mal quand il dit, il se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. C'est moi qui serai roi. Ça, cette phrase-là est comme la devise de l'humanité sans Dieu. C'est le penchant de notre cœur à tous. C'est moi qui serai roi. Et finalement, soit on dit c'est Jésus qui serait roi, soit on dit c'est moi qui serai roi. Mais Adonijah montre qu'il gère mal. Et pourtant, beaucoup vont le suivre parce qu'il est charismatique, il est dynamique. Mais c'est là où il faut faire entrer la voix du prophète. En verset 10, on apprend que Adonijah n'invite pas Adonijah à son intronisation. Donc, il s'autoproclame roi, ce qui est déjà un problème. Dans la Bible, les rois sont oints par les prophètes mandatés par Dieu. L'autoproclamation royale est un problème. C'est comme un avion. C'est vrai que le pilote, il est capitaine, il est chef de son avion, mais lui, il est soumis à tour de contrôle. Si un pilote refuse d'écouter un tour de contrôle, c'est grave. Écarter Nathan, ici, c'est grave. C'est déjà reconnaître quelque part que sa démarche n'est pas bonne. Alors, face à cette crise, Nathan, le prophète, se rend compte qu'il faut vite agir. Et je pense qu'on peut célébrer un peu la démarche de Nathan. Il voit qu'Adonijah, par ses qualités-là, n'est pas qualifié d'être le roi. Le roi ne sera pas affirmé, stable, si on met une telle personne en place. Donc, vite, il va trouver Bathsheba, la mère de Salomon. Et ensemble, ils font ça sagement, mais ensemble, ils vont aborder le vieux David. Alors, certains pourraient dire, bon, c'est juste une machination politique de la part de Nathan pour récupérer le pouvoir pour lui, et que voilà, personne n'est innocent dans ce jeu de pouvoir. Il y a le camp d'Adonijah qui tire les ficelles, il y a le camp de Nathan qui tire les ficelles, et la politique fonctionne comme ça, et voilà. Mais, tout en montrant les limites et les défis de la politique humaine, ce narrateur montre que finalement Dieu est à l'œuvre et que Israël aura toujours intérêt à suivre la voie du vrai prophète. Et ça va être un thème par toute la suite de ce livre des voix. Que disent le vrai prophète? Et c'est cette voie-là qu'il faut écouter en matière de royauté et de roi. Et Nathan, je pense qu'on peut lui faire confiance. Dans la Bible, Nathan est toujours présenté comme un prophète fidèle, même quand ça l'arrange pas, souvenez-vous que c'est Nathan qui a dû dénoncer le péché de David, le péché d'adultère et de meurtre même. Donc Nathan, ce n'est pas un béni oui-oui, ce n'est pas un opportuniste. D'ailleurs, il sait, peut-être pas beaucoup le savent, je ne sais pas à quel point, mais il est un des personnes qui sait très bien que Salomon est le fruit de l'adultère de David. David et Bathsheba avaient eu un enfant qui est décédé, mais Salomon, c'est l'enfant qui est né de l'union de David et Bathsheba. Et Nathan, c'est ça. Donc, s'il voulait juste manipuler le pouvoir et tirer, gagner pour lui-même, c'était même une carte à jouer en faveur de... contre Salomon, contre David. Mais, en tant que prophète de Dieu, il semble savoir que le choix doit être Salomon. C'est ce que David a voulu, c'est ce que David a promis. Et c'est finalement le choix qui glorifie la grâce de Dieu, qui est capable, même dans des situations de péché, restaurer, être un rédempteur, comme nous avons chanté, et faire valoir sa grâce. Et Salomon est le fruit de cela. En tout cas, Nathan semble savoir que c'était la volonté de Dieu. En tout cas, je trouve intéressant que Adonijah le sait aussi, parce que lui, il invite tous ses autres frères, mais il n'invite pas Salomon, il n'invite pas Nathan. Donc c'est comme si lui aussi sait que son père voulait que ce soit Salomon. Mais heureusement, grâce à l'action non passive, agissante de Nathan, là, ils vont pouvoir... rectifier le tir, stabiliser le royaume. Et on voit que même si David est vieux, il n'est pas grabataire. J'ai sauté un peu cette lecture, mais vite, avec Nathan et Bathsheba, ils passent à l'action avec leur équipe. Il y a le prophète Nathan, et un général, c'est Benaja. Il y a un sacrificateur, c'est Tzadok. Et il y a une maman, c'est pas à négliger, Bathsheba. Et ensemble, il procède à l'intronisation de Salomon. Et cette fois-ci, Salomon est dûment oint par le prophète et le sacrificateur, en verset 39, comme nous avons lu. Il s'assoit sur le mule, sur la monture de David, pour montrer que c'est lui le successeur légitime. Il s'assoit même sur le trône royal avec la bénédiction de son père. Et il y a toute la fête de la ville. Vive le roi Salomon. Alors, c'est particulier. Il y a deux intronisations, deux cérémonies en même temps, dans la même ville, pour deux rois différents. Imaginons à Londres, quand ils font le couronnement, l'intronisation d'un roi, qu'ils font ça en bis, deux endroits dans la ville, et le peuple pourrait être confus. Hein. Il y a une chaîne de télé qui suit une cérémonie, une chaîne de télé qui suit l'autre. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? C'est un peu ainsi que se trouve le peuple. Mais dès que Adonijah se rend compte qu'il y a une autre intronisation, que Salomon est le roi, c'est la fin. Hein. À la maison, on a ce jeu de société qui s'appelle Attrape Fantôme. Je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà, il y a un jeu d'équipe et puis il y a le fantôme dans la maison, il faut l'attraper. Une fois, quand on attrape le fantôme, il y a cette petite voix du jeu qui dit « La plaisanterie est terminée ». Eh bien, ici, pour Adonijah, la plaisanterie est terminée. Et il le sait, et il a peur, et il essaie de se réfugier. Mais quelque part, nous sommes comme les citoyens, nous sommes comme le peuple de Jérusalem. Aujourd'hui, la question se pose, quelle fête rejoindre? Quelle intronisation auquel assister? Quelle voix écouter? Oui, c'est troublant d'avoir ces deux en même temps. Et le peuple veut... il y a le bruit, la fête d'un côté, et puis le bruit, la fête de l'autre côté. Qui a raison? Mais nous avons un indice. Est-ce que nous écoutons la voix du prophète, le vrai roi, ou est-ce que nous écoutons la voix des usurpateurs? Et nous aussi, nous avons des indications claires. Jésus, le fils de David, a été le choix confirmé par les prophètes. Il a été oint par Dieu, avec même plus que l'huile, mais le Saint-Esprit. il a connu une validation publique par sa résurrection, son ascension au trône. Et tout ça fait que pour les autres prétendants, la plaisanterie sera bientôt terminée. Mais nous aussi, nous écoutons la voix du prophète et nous avons la voix des prophètes ici dans la Bible. Et c'est ainsi que nous pouvons naviguer les crises dans nos vies, les moments d'instabilité, les moments de choix. Nous voulons écouter la voix du prophète. Et enfin, voyons le verdict du prince. Ça aussi va permettre d'affermir et de stabiliser le royaume. Au chapitre 2, David donne le cahier des charges à son fils, Salomon. C'est le plan de vol. Donc dans les premiers versets, versets 3 et 4, ça devient un peu le leitmotiv de tout ce livre. Tout roi qui va adhérer à ce plan de vol, qui va garder ce cap que David donne à Salomon, sera béni. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu tourneras. Et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi, si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. C'est un des thèmes de ce livre. Et dans la mesure que les rois ont fait ça, ils ont été bénis. Malheureusement, les rois n'ont pas fait ça, y compris Salomon, et c'était le crash. Donc la boîte noire nous rappelle d'où venait. Par la suite, la boîte noire va montrer d'où vient le problème. Et le problème vient lorsqu'ils n'ont pas reçu ils n'ont pas écouté ce mandat, ce plan de vote de David. Et ça, nous aurons l'occasion dans cette série de voir comment les rois ont soit obéi ou soit désobéi à cette charge. Mais ensuite, dans les versets 5 à 9 que nous allons voir, David donne au prince Salomon la mission d'exercer la justice, donc de prononcer un verdict, d'exercer la justice et d'éliminer ses ennemis. Alors ça nous trouble peut-être un peu. Certains y voient un conseil sanguinaire, violent, une vengeance, un désir de vengeance personnelle de la part de David, amer. Et il est en fin de vie, il dit à Salomon, voilà, tu zigotes tous ses ennemis et basta. Mais d'autres diraient que David, je suis de cet avis, d'autres diraient que David, lui qui a toujours renoncé à une vengeance personnelle de son vivant, il confie la justice, il confie les dossiers à son fils, il lui confie cette mission royale, cette mission de quelqu'un qui est loin avec la justice et les pouvoirs du pays, de manière légitime, il confie cette mission d'exercer une justice sage et de prononcer un verdict juste sur les rebelles et d'éliminer ses rivaux comme fera un roi juste. Et en cela, je crois que Salomon devient une image de Jésus, le Fils de Dieu. Il est appelé à la fin de la Bible, dans le livre de jugement, il est appelé le prince des rois de la terre, qui lui aussi un jour fera une justice parfaite, où les rebelles seront punis, éliminés, pour ensuite affermir son royaume. Parce que pour que le royaume soit affermi, il faut que les rebelles, ceux qui ont toujours fomenté les rébellions, soient jugés et éliminés. Et les personnes ici, Joab, Adonija, Shimei, qui vont recevoir ce verdict du prince, ils sont des personnes clés qui pourraient déstabiliser le royaume en ayant déjà fait des choses qui contre l'autorité du roi. Donc je dirais que dans ce chapitre 2, on n'a pas tout lu, mais je vais vous résumer ça en quelques instants. Dans ce chapitre 2, Salomon pratique la sagesse qu'il a lui-même enseignée par la suite dans les proverbes. Je vous cite quelques proverbes, proverbes 16, 12. « Les rois ont horreur de faire le mal, car c'est par la justice que le trône s'affermit. » Ou proverbe 25, verset 5. « Ôte le méchant de devant le roi, et son trône s'affermira par la justice. » Donc si on veut un royaume affirmé, si on veut une vie stable, il faut aussi accepter ce qui est juste, la justice de Dieu et le verdict de Dieu sur nos vies. Et c'est ce que Salomon va faire. Et David l'appelle à le faire avec sagesse et il le fait avec sagesse. Si vous lisez tout le chapitre 2, vous verrez que Salomon opère une justice qui élimine ses rivaux, mais cette justice n'est pas dépourvue de grâce ni de deuxième chance. Quand on lit les détails, en fait, tous ses rivaux, j'en ai Adonija, Joab, Shimei et Abiathar notamment, tous ceux qui ont rejoint la partie dans nos premiers points, tous ceux qui ont choisi dans ce vide du pouvoir à suivre Adonija, eh bien, tous ces rivaux auraient pu avoir la vie sauve en acceptant la grâce, mais au fond, ils vont montrer qu'au fond, ils ne veulent pas que le fils de David règne sur eux. Donc Adonija, prenant son cas, lui, il avait carrément lancé une intronisation de concurrence. Il voit que la plaisanterie est terminée, donc il se réfugie, lui, dans la tente, ils prennent les cornes de l'autel. Et Salomon dit, ok, s'il n'y a pas de méchanceté en toi, tu auras la vie sauve. Donc il reçoit une deuxième chance. Le roi est rempli de grâce. Mais c'est quand il essaie une deuxième fois d'usurper le pouvoir en voulant épouser Abishag, on avait rencontré cette jeune fille belle au début du chapitre 1, et bien Adonija décide qu'il veut la récupérer pour lui-même. Mais ça, surtout à l'époque, vouloir épouser l'ex-femme du roi, c'était une manière de dire, moi je veux encore le trône de David. Et là, quand il fait ça, on voit qu'il a vraiment la rébellion dans son cœur et le roi, Salomon va le punir et l'exécuter. Il y a ce Shimei qui lui, à l'époque, il avait vraiment sévèrement, méchamment maudit David, ce qui est chose que la loi de Moïse interdisait. Il mérite la mort. Mais Salomon offre le verdict de la justice, on va dire, d'un bracelet électronique. Il peut rester, si tu restes à Jérusalem, où je peux garder mon œil sur toi, parce qu'il est capable, lui, c'est un benjamite, donc il est capable d'aller voir le tribu qui peut concurrencer un peu la tribu de Juda et créer encore une division. Il dit, si tu restes à Jérusalem, tout va bien. Eh bien, Shimei ne prend pas ce verdict au sérieux, il ne prend pas la justice de Salomon au sérieux, et un jour, il va chercher deux ânes, je ne sais pas, et il quitte la ville. Salomon apprend la nouvelle et dit, je t'avais dit, tu étais d'accord sur le verdict, là tu as désobéi. Donc là, tu seras puni, éliminé, exécuté. Joab, lui, quand Adonija retente une nouvelle trahison en prenant Abishag, en voulant Abishag, Joab sait que lui, il a choisi le mauvais camp. Donc lui, vite, il essaie de se réfugier, comme avait fait Adonija à l'époque avec Salomon, il essaie de se réfugier aussi dans la tente en saisissant les cornes de l'autel. Vous avez, c'est l'histoire dans les versets 28 et suivants. Il pense que peut-être si je me réfugie, si je saisis les cornes de l'autel, peut-être j'aurai la grâce. Mais ce geste fait penser, je dirais, à tous ceux qui, au jour du jugement, vont essayer de se réfugier dans une foi, entre guillemets, qui n'ont jamais vraiment pratiqué ou aimé. Quelqu'un, je m'enterre, qui dit, je m'enterre dans une église avec une croix sur mon cercueil, peut-être j'aurai la vie sauve, ou je saisis mon baptême de bébé, que par la suite, j'ai jamais... Ou mon conjoint était croyant, donc ça devrait suffire. Ou je porte un crucifix autour du cou. Ou j'ai grandi dans une église. Mais c'est saisir les cornes de l'autel, là, pour Joab, il n'y a pas un changement de cœur. Toute sa vie, il était un peu calculateur, rusé, un assassin. Et à ce moment, c'est trop tard. Il n'a pas voulu aimer suivre Salomon. Il espère qu'un geste physique à la fin de sa vie va le sauver, mais c'est trop tard. C'est pas ça qui nous sauve du verdict du roi. Ces gestes, ces objets sacrés, non. Ce qui sauve, c'est la croix. C'est la croix ce vers quoi l'autel et le temple et la tente pointés. Où là, il y a la justice de Dieu et la grâce de Dieu qui se rencontrent. C'est grâce à la croix et c'est grâce au fait que nous fléchissons le genou devant Jésus-Christ, que nous embrassons son parti, que nous avons la vie sauve. Et là, le verdict est juste. Le verdict peut être favorable parce que nos rébellions, nos usurpations du pouvoir sont punies, mais pas sur nous, mais sur Jésus-Christ qui prend notre place. Donc le verdict est favorable et juste. Mais pour ceux qui n'ont jamais fléchi le genou devant Jésus-Christ, qui n'ont pas saisi le sens de la croix, eh bien le verdict sera juste, mais défavorable. Appliqué dans une grande sagesse, une grande justice, personne ne dirait « Ah, Jésus, c'est juste une vengeance perso sanguinaire qui veut éliminer ses rivaux. » Non, Jésus, dans sa sagesse, comme Salomon, serait capable de montrer à tous que son verdict a été distribué avec sagesse. Si vous regardez bien, tous les rivaux du roi ont provoqué leur propre perte en faisant des mauvais choix. Et le verdict, quand il tombe, il est sévère, mais tout le monde voit que c'est juste. Parce que chacun avait une deuxième chance, au moins une deuxième chance. Chacun pouvait bénéficier de la grâce du roi, mais beaucoup ne l'ont pas fait. Et ainsi, le royaume est affermi. Il y avait des turbulences, il y avait un vide du pouvoir, mais ceux qui ont écouté la voix du prophète, ceux qui ont vu la sagesse dans le verdict du prince, eh bien, ils voient, ils reçoivent, ils héritent un royaume affermi. Et c'est ça le message pour nous encore ce matin. Aujourd'hui, vous avez peut-être l'impression que le monde est en crise, ou que, au niveau personnel, vous traversez des circonstances déstabilisantes, des turbulences. Mais si Jésus est aux commandes, si vous montez à bord de son royaume, vous serez affermi. Vous serez traité avec bienveillance. Vous n'aurez pas à craindre son verdict. Vous serez au bénéfice de sa justice et de sa sagesse. Et encore aujourd'hui, c'est ce que nous voulons faire, ne pas suivre les rivaux, mais suivre Jésus, le vrai roi. Que Dieu nous aide à le faire. Prions. Seigneur, nous trouvons un peu comme ce peuple lors des deux intronisations. On entend le bruit, la joie, la fête, les chants ici ce matin qui célèbrent le roi des rois dans le monde de tous les jours. On entend aussi d'autres bruits, d'autres voix, d'autres fêtes, d'autres célébrations qui peut-être nous appellent à suivre des concurrents, des rivaux. Et nous te prions que tu nous aides à avoir le courage de rejoindre le camp de Jésus, le vrai roi. Il a montré qu'il est ton choix. C'est celui qui est venu dans la vérité, dans la justice, dans la paix, qui a renoncé à l'orgueil, à l'égoïsme, qui n'est pas là pour se servir, mais il s'est donné à nous. Et nous reconnaissons dans ses qualités un meilleur roi que ce monde qui veut souvent nous manipuler, nous détruire, nous profiter de nous. Et nous te prions qu'encore ce matin, le choix devienne clair pour nous tous. Nous te prions pour ceux qui peuvent connaître des turbulences dans la vie. Nous te prions qu'en s'appuyant sur toi, sur tes promesses, sur Jésus-Christ, ils trouvent une grande stabilité, une grande paix, une grande justice. Nous te remercions. Amen.